Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans Ça tourne, l'émission cinéma qui vous révèle des anecdotes de tournage que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur un film d'époque qui nous plonge en pleine période d'après-guerre. Une histoire vraie, celle de Jan Bożarski, ingénieur polonais qui fait fortune en France en fabriquant de faux billets, des billets tellement parfaits qu'on le surnommait à l'époque le Cézanne de la fausse monnaie.
Comment tu t'appelles ?
Jan Bożarski.
Il paraît que t'as du talent, Jan.
5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
Bouge pas !
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte.
À la vôtre, monsieur Bożarski.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Règle numéro 3, la discrétion.
Extrait du film L'affaire Bożarski au cinéma mercredi prochain. Et pour nous en révéler les secrets de tournage, le réalisateur Jean-Paul Salomé, le comédien Reda Kateb et le chef opérateur Julien Hirsch sont nos invités. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bravo pour ce magnifique travail de reconstitution. On va y revenir. Reda Kateb, on vous voit dans de très nombreux films au cinéma. Depuis Le Prophète en 2009, on vous a aussi vu à la télé dans la série En Thérapie. Mais votre dernier film d'époque, c'était justement pendant cette même période de l'occupation, dans le film Django, vous interprétiez Django Reinhardt en 2017. Est-ce que ça vous plaît déjà de tourner dans un film d'époque ? Est-ce qu'il y a une forme de magie là-dedans ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours envisagé les tournages, les pièces de théâtre, ce qu'on peut faire comme acteur, comme des voyages. Et donc, le voyage dans le temps, c'est très galvanisant. Ouais. C'est assez. On revient à quelque chose d'enfantin, de se déguiser,
ouais,
de découvrir des décors. Je pense qu'on est tous portés, pas seulement les acteurs, mais toute l'équipe, par la magie de se déplacer dans le temps.
Pour le biopic sur Django Reinhardt, vous aviez appris à jouer de la guitare pendant plus d'un an. Est-ce que pour incarner Bożarski, vous avez appris à fabriquer de faux billets ?
Oui. Alors, ça a demandé un petit peu moins de temps de coaching que le travail de la guitare pour jouer Django Reinhardt. Mais j'ai eu quand même besoin de passer un petit peu de temps à découvrir, à apprivoiser ces machines, à tenter en tout cas d'être juste dans mes gestes. C'était quelque chose qui était très important pour moi, pour que les spectateurs puissent rentrer dans l'histoire, qu'on croit à cet homme dans son atelier, à son travail. C'était aussi le projet du film de Jean-Paul. Déjà au scénario, il y avait beaucoup de scènes de cet homme au travail, dans son atelier avec ses machines. Et avant le tournage, je me disais que oui, si on ne croyait pas à un geste, on ne croirait pas à l'histoire. Donc c'était extrêmement important.
Vous avez beaucoup de répétitions, justement, pour
maîtriser
ça. Du coup,
voilà, j'ai passé du temps, oui, à découvrir ces machines, à apprendre les gestes avec des gens de notre équipe décoration du film et aussi un imprimeur qui était avec nous sur le tournage. Et après, tout comme la guitare dans Django, c'est des petites séquences, c'est des petits moments qu'on peut répéter avant de tourner, qu'on peut refaire si ça fonctionne pas. Donc voilà, il y a quand même le travail de faussaire qu'on fait les uns les autres qui intervient.
Oui, j'en parle parce que c'est une partie visuellement très très développée dans le film. Jean-Paul Salomé, c'est vraiment passionnant. Vous avez choisi de montrer avec précision comment on fabriquait de faux billets de banque au siècle dernier. Et ce, notamment grâce à une documentation précise, celle de la police des fraudes, qui a laissé beaucoup de documents d'archives.
Oui, c'est vrai qu'on a eu accès, et heureusement, à pas mal d'archives, de photos, de films aussi, et de témoignages qui nous ont vraiment aidés dans toute cette partie du film, de la reconstitution de son atelier, de ses machines, de la manière dont il inventait cette manière de faire des faux billets. Et ça a été, ça nous a aidés. C'est vrai qu'il y avait ces images d'archives qu'on voit à un moment dans le film, sans spoiler les choses, mais qui pour moi étaient importantes parce qu'on voyait la beauté du geste de cet homme qui était aussi quand même quelque chose de... pas de mécanique, mais comme une espèce de chorégraphie, en fait, dans sa manière de se déplacer d'une machine à l'autre. Parce qu'il a imprimé des milliers et des milliers de billets. Donc, en même temps, ça demandait le travail d'orfèvre pour créer le billet. Mais une fois qu'il en était passé au stade de l'impression, et etc., c'était un autre travail qui était très mécanique.
Et puis vous avez reconstitué de vraies machines sur le tournage.
Oui, parce que les machines qu'il a inventées, que Bojarski a inventées à l'époque, et avec lesquelles il avait imprimé ses billets pendant toutes ces années, ont été détruites et ont disparu à jamais. Donc on a dû, nous, à partir des photos et des images d'archives, et même de certains plans qu'il avait faits de ces machines, les recréer à l'identique. Voilà, pour que ce soit le plus crédible possible.
Et pour mettre en image ce magnifique travail de reconstitution, on met en lumière donc aujourd'hui un métier de l'ombre capital dans une équipe de films, celui de chef opérateur. Juste, Reda Kateb.
La lumière et l'ombre, c'est une belle introduction pour ton métier, hein, vraiment.
D'ailleurs, Reda Kateb, comment vous décririez de votre point de vue de comédien la fonction de Julien Hirsch, qui est donc chef opérateur, sur un plateau de tournage?
Déjà, je suis très content que tu sois là, Julien. C'est très rare, finalement, qu'on puisse retrouver les personnes avec qui on a fait le film, qui sont tellement centrales dans la fabrication d'un film à ce stade de la promotion et des discussions qu'on peut avoir autour du film. La personne qui vous éclaire, la personne qui vous filme, la personne qui se situe derrière la caméra, vous avez un lien très intime avec quand vous êtes acteur. Il y a quelque chose où à un moment, vous vous êtes vu parcouru sous toutes les coutures à longueur de journée et de nuit. Et je pense que quand il y a ce lien-là et cette confiance-là, la chorégraphie, justement, peut être plus habitée. La danse qu'on doit mener, la caméra bouge, l'acteur aussi. La personne qui est derrière et qui va être ensuite les yeux du spectateur, c'est le chef opérateur ou la chef opératrice.
Julien Hirsch, donc on va vous donner la parole. Déjà, à quel autre métier pourrait-on comparer celui de chef opérateur ?
Je penserais à architecte,
ouais.
Un peu. C'est-à-dire, il y a à la fois une partie technique et à la fois une partie artistique. Mais la différence, quand même, c'est que je suis censé éclairer et pratiquement, en fait, je suis censé éclairer et filmer des séquences qui ont été imaginées et mises en place par un réalisateur. Donc, je suis censé me rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre.
Donc, pour qu'on comprenne bien, vous êtes derrière la caméra, vous êtes ce qu'on appelle au cadre.
Ouais.
Et c'est vous qui gérez donc la lumière du film.
Je conçois la lumière, oui, de chaque scène.
Concevoir la lumière d'un film, c'est quelque chose. Comment vous décririez la lumière de l'affaire Bojarski ?
Je la décrirais comme une lumière de fiction, c'est-à-dire qui n'est pas documentaire, mais qui s'attache plus à, comment dire, à révéler les émotions plus qu'à montrer à l'époque. Je me suis beaucoup appuyé sur eux et les comédiens et ce qu'ils avaient à faire, en l'occurrence beaucoup le travail manuel qui représente la fabrication des billets et filmer un métier de manière vraiment dans sa complexité et sa minutie, mais de manière pas ennuyeuse.
Oui, c'était un tournage assez intense. À quoi ressemble, Jean-Paul Salomé, une journée de tournage comme celle de sur l'affaire Bojarski? Est-ce qu'on se lève très tôt en tant que réalisateur? Est-ce qu'on fait des insomnies? Voilà, c'est quoi votre rythme?
On se couche pas beaucoup, on se couche tard, on se lève très tôt, mais ça, c'est pas tellement le problème. Voilà, le tournage, c'est une période très particulière de la vie où on est déconnecté de tout le reste. Donc oui, sur ce film, en plus, c'est un film qu'on tournait il y a un an, en plein hiver, il fait très froid, on a vraiment eu des... Moi, je disais toujours à tout le monde, je veux que ce soit un film d'hiver. Ben, j'ai été gâté à l'époque. Ça a vraiment été un film d'hiver, on a eu très froid très souvent.
Ah là là.
Et puis, comme dit Julien, c'était aussi un film d'époque. Ça complique un peu tout, quand même, de faire un film d'époque, parce que vous ne pouvez pas filmer n'importe quelle rue, n'importe quel endroit.
C'est ce que j'allais
tout
dire.
Est à refaire.
À un moment donné, vous avez tourné à Lyon, mais aussi à Paris, notamment dans une rue à Vichy. Et vous avez tourné notamment dans une rue en contrebas du Moulin Rouge, c'est très reconnaissable. Vous étiez vraiment dans cette rue?
Ah non, mais de toute façon, il n'y a aucun plan d'extérieur qui soit remis comme ça, tel qu'on l'a tourné dans le film. À l'extérieur de Paris ou de n'importe quelle ville, il n'y a plus rien à voir avec les années 50. Enfin, il y a toujours des à effacer, des bricoles, un bout de pavé, des stationnements, un monument, un bâtiment qui n'est pas d'époque. Donc ça, c'est l'intérêt aujourd'hui des effets spéciaux du numérique, c'est de pouvoir travailler à l'infini des images. En fait, je pense que ce qui est réussi, c'est que tous les effets spéciaux ne se voient pas.
Non, c'est vrai.
Et voilà, donc le Moulin Rouge, il n'était pas là quand on a tourné, la Tour Eiffel non plus, enfin il y a plein de trucs comme ça, mais des trains, des figurants, on a rajouté plein de choses dans tous les sens. Tout ça était pour aider les personnages, aider ce qu'on voulait faire passer. Voilà. Donc tant pis s'il n'y avait pas un train en plus, ou une voiture, ou un truc, même si des fois je m'énervais là-dessus. Mais finalement, c'était qu'est-ce qu'on filme, quoi. On filme un homme, on filme une femme, on filme des comédiens. Voilà, donc on ne voulait pas se laisser vampiriser par la reconstitution.
Ici, avec Ségolène Aluini, Ça tourne.
Ça tourne avec l'équipe du film L'affaire Bojarski au cinéma mercredi prochain. Le comédien Reda Kateb, le réalisateur Jean-Paul Salomé et le chef opérateur Julien Hirsch sont nos invités. Et c'est l'heure, messieurs, de la séquence souvenirs sensoriels de tournage. Reda Kateb, quel est le son que vous retiendrez de ce tournage?
Ah bah, alors pour le coup, le son de ces machines, machines d'imprimerie qui sont du coup faites de cuir, de bois, de métal, que de matière qu'on n'a plus forcément autour de nous et qu'on n'entend pas forcément dans notre quotidien, et qui à un moment forme une espèce de musique répétitive qui invite presque à une forme de transe dans la répétition de ces rythmes et de ces matières-là.
Est-ce que ça a hanté vos rêves pendant la durée du tournage?
J'ai envie de vous répondre oui pour vous faire plaisir.
Ah non. Bah non, dites-nous la vérité.
Bah non, alors.
Eh ben voilà, très bien. Julien Hirsch, quelle est l'odeur que vous retenez de ce tournage?
La principale, je pense que c'est la graisse, l'odeur de la graisse qui enduit tous les engrenages de la presse habillée autour de laquelle on a beaucoup tourné et que j'ai beaucoup filmé sur ce film.
Et comment on décrirait cette odeur de graisse, Reda?
On peut le rapprocher un peu d'un magasin de vélo, d'entretien de vélo, le caoutchouc en moins, quoi, un peu. Mais c'est vrai que c'est très particulier, c'est vraiment incomparable. Ouais.
Jean-Paul Salomé, quel accessoire vous a particulièrement marqué sur le tournage de ce film?
Les accessoires sont ces machines qui ont été recréées. En plus, c'était assez émouvant pour moi, elles ont été recréées par mon fils et qui travaille dans la déco. C'est pas improvisé tout d'un coup comme ça, inventeur de machines. Mais il se trouve qu'il fait partie de l'équipe de décoration de François Dupertuis et qu'il était en charge, il a eu la lourde charge avec deux autres techniciens, de recréer toutes ces machines. Pour moi, la réussite d'une grande partie du film, au-delà des comédiens évidemment, mais venait aussi que ces comédiens puissent interagir avec ces machines, qu'il y ait quelque chose, qu'on sente le travail de cet homme. Mais comme Bojarski les a fait à l'époque, avec son côté « je trouve tout », ils sont allés sur le bon coin, ils ont trouvé un moteur de vieille machine à coudre, une pompe à vélo, parce que tout ça, c'était Bojarski les a créés comme ça. Et puis une fraise de dentiste, enfin des tas de trucs, voilà. Et ils ont recréé ça. Et moi, je me souviens du choc quand on est allé dans l'atelier déco, tous les trois, ensemble, découvrir ces machines et ils nous ont montré comment elles allaient fonctionner. Pour le cinéma, évidemment, mais en tout cas, elle fonctionnait suffisamment pour que Reda puisse figurer tout le travail qu'il avait à faire dessus. Donc ça, oui, c'était un grand moment d'émotion à voir ces machines-là.
Julien Hirsch, pour vous, c'est pareil. Vous avez découvert cette histoire et ça vous a passionné. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de film d'époque, justement.
Oui, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de film d'époque. Et je ne connaissais pas du tout ce personnage. J'en avais jamais entendu parler. Et effectivement, c'est un personnage vraiment très, très étonnant. Et dans sa solitude, et dans sa concentration, dans son idée fixe presque. Il peut tout à fait faire penser à un artiste, en fait.
Il est décrit comme ça, le Cézanne de la fausse monnaie.
Comme un artiste, ouais.
Jean-Paul Salomé, avec quoi avez-vous envie que les spectateurs repartent après avoir vu votre film?
J'ai envie que les spectateurs découvrent le génie de cet homme qui a vu une vie extraordinaire en essayant de rester un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'en même temps, il avait une femme, des enfants, et il a essayé de joindre tous ces univers impossibles. De comment être un artiste en ayant cette vie-là, comment être un hors-la-loi en ayant cette vie-là. De l'extérieur, il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, et si on soulevait le couvercle de la marmite, alors là, ça bouillait. et c'est ça que je trouvais formidable. C'était ce mélange de calme, de vie très simple. Et en fait, quand on passait de l'autre côté du décor, on s'aperçoit que c'était insensé, quoi. J'aimerais que les gens le ressentent.
Réhabiliter l'histoire.
Et le réhabiliter, parce que c'était un génie, c'était vraiment un génie, ce type.
L'affaire Bojarski, une passionnante plongée au cœur de l'histoire vraie du Cézanne de la fausse monnaie. Yann Bojarski, incarné avec talent, comme d'habitude, par Reda Kateb à l'écran. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Reda.
Merci de nous avoir invités.
Au casting, on retrouve aussi Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, Quentin Dolmer et Pierre Lautin, pour ne citer que. Merci Jean-Paul Salomé d'être venu dans sa tourne. Et merci Julien Hirsch de nous avoir présenté votre métier de chef opérateur. Bravo pour le boulot magnifique sur ce film.
Merci beaucoup.